Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Mieux voir. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger son regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années, dit Proust dans Le Temps retrouvé. Cet instant ancien tenait encore à moi, je pouvais encore le retrouver, retourner jusqu'à lui, rien qu'en descendant plus profondément en moi. Ces années passées n'ont séparé de moi, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais en moi. Plonger son regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense, au fond de nous et au-delà encore, par-delà l'empreinte qu'a laissé en nous ce que nous avons vécu, par-delà la mémoire léguée par la succession des générations humaines. Découvrir le passé immense de l'histoire du vivant, de l'histoire de la Terre, de l'histoire de l'univers. Cette succession de renaissances sous des formes toujours nouvelles. Découvrir ce passé immense et entrevoir ces temps où le vivant se déployait, mais où nous n'étions pas encore. Ces temps où le soleil puis la terre émergeaient, mais où il n'y avait pas encore de vie sur terre. Ces temps où l'univers se déployait, mais où il n'y avait encore ni soleil ni terre. Ce bouleversement, ce changement radical de perspective, débute il y a un peu plus de 150 ans, avec la publication par Darwin de L'Origine des espèces. Et 70 ans plus tard, une même vision apparaîtra, qui cette fois concerne l'ensemble de l'univers. Les paysages que révèlent ces immenses étendues de temps jusque-là inconnues, les 3,5 milliards à 4 milliards d'années de métamorphose du vivant, les 4,5 milliards d'années de métamorphose de notre système solaire et les 14 milliards d'années de métamorphose de notre univers, ces paysages n'ont rien de commun avec nous, sauf de nous avoir donné naissance. Je levais les yeux, dit Pascal Quignard. Contempler le ciel qui n'est pas vivant, pour tout ce qui est vivant, c'est contempler le seul aïeul. Plonger notre regard loin dans le ciel, c'est plonger dans nos origines, dans notre passé le plus lointain, celui dont nous étions absents. C'est guetter le lent retour vers nous de la lumière qui nous vient du fond des âges. C'est ressentir la nostalgie d'un pays natal à jamais disparu, dont les différents vestiges s'enfuient au loin, métamorphosés depuis longtemps et continuant à se métamorphoser, mourant et renaissant sous des formes nouvelles, fuyant toujours plus loin tout autour de nous. Explorer les confins du ciel, c'est recomposer l'histoire de notre univers. Nostalgie des débuts, nostalgie de la lumière. Je vous ai déjà parlé de la révélation au début du XXe siècle de l'immensité des dimensions de l'univers et du rôle qu'a joué l'astronome américaine Henrietta Swan Leavitt dans cette découverte. Confinée au travail de computer, de calculatrice, d'instruments humains mal payés, confinée à l'analyse une à une des milliers d'étoiles qui s'impriment sur les plaques photographiques du télescope de l'observatoire de l'université Harvard. Henrietta Leavitt découvre en 1908 que les pulsations régulières des étoiles variables, les céphéides, que le rythme auquel battent ces horloges célestes révèle leur émission réelle de lumière, ce qui permet, à partir de leur luminosité apparente, de déduire la distance qui nous sépare d'elles. Et à partir de ces chandelles clignotant dans la nuit, elle arpentera le ciel, mesurant les distances des galaxies lointaines, dans lesquelles clignotent d'autres étoiles variables, d'autres céphéides, dont la lumière peut être perçue par les télescopes. Aujourd'hui, l'observatoire de l'université Harvard, l'un des plus grands du monde lors de sa mise en route en 1847, n'est plus en activité. Il a été remplacé par d'autres observatoires géants. D'abord en Californie, l'observatoire du Mont Wilson, où travaillera l'astronome Edwin Hubble, qui mesurera pour la première fois l'expansion de l'univers en analysant la longueur d'onde de la lumière, le rougeoiement de la lumière qui nous parvient des galaxies. Aujourd'hui, les observatoires géants de Mauna Kea à Hawaï, de Cerro Tololo au Chili, sont d'une puissance et d'une capacité d'analyse sans aucune commune mesure avec les observatoires du passé. Ce ne sont plus des femmes computer qui analysent des images, mais des instruments informatisés qui analysent les ondes lumineuses électromagnétiques qui nous arrivent de l'espace le plus lointain, de notre passé le plus lointain. Les observatoires géants ont été construits dans des régions inhabitées, de plus en plus haut, au sommet des montagnes, pour être plus près du ciel et plus loin des lumières artificielles des villes et des poussières de la pollution. Les plus grands télescopes du monde ont été construits depuis le milieu des années 1960 dans les montagnes d'un désert, au nord du Chili, le désert d'Atacama.
Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
Le désert d'Atacama est le lieu le plus sec de notre planète. Des dizaines d'années s'écoulent sans qu'il pleuve. Le ciel est pur de toute interférence avec des vapeurs d'eau. Ce mois-ci, sur les hauts plateaux de Chajnantor, à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, le premier télescope global, ALMA, est entré en activité. 14 pays européens, les États-Unis d'Amérique, le Japon, le Brésil, le Canada, Taïwan et le Chili ont participé à sa construction. 66 antennes receveuses qui ressemblent à des soucoupes tournées vers le ciel, combinent les signaux reçus pour en reconstituer des images globales avec un extraordinaire degré de résolution. Les 16 premières antennes sont entrées en activité ce mois d'octobre. Ce télescope ne détecte pas seulement la lumière émise par les lointains objets célestes chauds et brillants, les galaxies, leurs étoiles, les explosions de leurs supernovas et les nuages de gaz lumineux où naissent les étoiles. Il détecte aussi le spectre des ondes électromagnétiques, entre les ondes infrarouges et les micro-ondes, qui sont émises par des objets célestes extrêmement froids, d'une température entre 10 et 50 Kelvin, proche du zéro absolu, c'est-à-dire proche d'une température de moins 273 degrés Celsius. Les régions les plus froides et les plus obscures de l'univers, à distance des étoiles. Les nombreux observatoires géants du désert d'Atacama explorent la naissance des étoiles, la naissance des planètes dans l'environnement de jeunes étoiles, la composition chimique des disques de gaz et de poussière qui entourent ces jeunes étoiles. Ils recherchent aussi, à travers l'espace, la présence possible de molécules organiques, les molécules à partir desquelles s'est formée la vie. Des acides aminés qui auraient pu se former dans l'espace interstellaire, puis pleuvoir sur notre toute jeune Terre ou être apportés par des comètes. Sur notre toute jeune Terre et peut-être, qui sait, sur des exoplanètes dont on a depuis quelques années identifié des centaines qui gravitent dans d'autres galaxies autour d'étoiles semblables à notre Soleil. Les matériaux de base de la vie voyagent-ils dans l'espace? La vie est-elle née ailleurs dans l'espace? Nous est-elle parvenue d'ailleurs? Des formes résistantes de vie originelle, analogues à des bactéries sous forme de spores, l'équivalent de graines dans lesquelles la vie est temporairement suspendue, auraient-elles pu voyager à travers le ciel et ensemencer notre planète il y a 3,5 milliards à 4 milliards d'années? C'est une des théories sur l'origine de la vie, proposée notamment par Francis Crick, le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN. Mais si nous ne pouvons pas remonter à travers le temps pour observer le moment où la vie a émergé sur Terre, il y a d'autres façons d'explorer cette question. L'une consiste à rechercher des traces de vie dans l'espace, sur des planètes lointaines, dans le système solaire et au-delà. L'autre consiste à rechercher des traces de vie extraterrestre sur notre planète. Rechercher si des formes simples de vie ou des formes de vie fossilisées, des fossiles de micro-organismes, pourraient être présentes sur certains des cailloux extraterrestres, des météorites qui s'écrasent chaque année sur la Terre. La quasi-totalité des météorites qui tombent sur la Terre sont des fragments d'astéroïdes, ces vagabonds du ciel de la taille d'une montagne et parfois d'un pays, qui ont émergé au tout début du système solaire, avant même la formation de notre planète, et qui voyagent pour la plupart à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Parmi les météorites qui ont été découvertes sur Terre, une infime minorité nous vient non pas des astéroïdes, mais de la Lune ou de la planète Mars. C'est le cas d'une météorite devenue célèbre, la météorite HAL 84001. Il y a presque exactement 15 ans, le 16 août 1996, Bill Clinton, le président des États-Unis, fait une déclaration. Aujourd'hui, dit Bill Clinton, la roche 84001 nous parle à travers des milliards de kilomètres et des millions d'années. Elle nous parle de la possibilité de vie. Si cette découverte est confirmée, elle constituera probablement l'une des plus stupéfiantes révélations sur notre univers que la science ait jamais produite. Les implications d'une telle découverte sont aussi considérables et aussi impressionnantes qu'on peut l'imaginer. Cette déclaration fait suite à la publication le même jour, dans la revue Science, d'un article d'une équipe de chercheurs américains et canadiens. Le titre de l'article est « La recherche d'une vie ancienne sur la planète Mars, une relique possible d'une activité biologique dans la météorite martienne HAL 84001 ». La météorite HAL 84001 se serait détaché de la planète Mars il y a 16 millions d'années, lors d'une collision avec un astéroïde ou une comète. Et ce morceau de Mars semble avoir vagabondé pendant 16 millions d'années à travers le système solaire, avant de s'écraser sur Terre il y a 13 000 ans. La météorite de près de 2 kilos a été découverte 13 000 ans plus tard, en 1984, par une expédition de chercheurs dans l'Antarctique, dans les Allan Hills, les collines d'Allan, d'où son nom, Al. Et 12 ans plus tard, en 1996, une équipe de chercheurs américains et canadiens publie leur découverte à la surface et à l'intérieur de la météorite de microscopiques structures en forme de globules et de bâtonnets constitués de carbonate avec des composés organiques. Ces minuscules globules et bâtonnets, disent les chercheurs, pourraient être des composants produits par des micro-organismes vivants, voire même être des fossiles de minuscules bactéries, mais d'une taille 5 à 10 fois plus réduite que les plus petites bactéries connues sur Terre. Et la conclusion de l'article est la suivante. Aucune des caractéristiques que nous avons décrites ne permet à elle seule de conclure à l'existence d'une vie passée sur Mars. Il y a une explication alternative, une origine non organique, purement minérale, pour chacune de ces caractéristiques quand elles sont prises en compte individuellement. En revanche, quand on les prend en compte globalement, notre conclusion est qu'elles constituent des preuves en faveur de l'existence de formes de vie primitives sur la planète Mars quand elle était plus jeune. Une forme de vie a-t-elle pu exister sur Mars, il y a plus de 16 millions d'années ? Une forme de vie dont la roche Al 84001 aurait emporté les vestiges, les fossiles, dans ses errances à travers l'espace et le temps, avant de s'écraser sur notre Terre. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. Alive on Mars.
Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen.
Depuis 15 ans, après de nombreuses recherches additionnelles, aucune preuve concluante n'a été apportée que les globules et bâtonnets de carbonate découverts sur la météorite AL84001 sont des fossiles de micro-organismes martiens ou des traces de l'activité ancienne de micro-organismes martiens. D'une manière plus générale, aucune preuve de forme de vie extraterrestre ou de fossiles de vie extraterrestre n'a été à ce jour identifiée sur aucune météorite, ni aucun astéroïde tombé sur notre planète, ni sur aucune planète, ni aucun astéroïde ou comète que les sondes spatiales ont pu examiner. Les recherches continuent. Mais l'étude des météorites qui pleuvent sur notre planète peut conduire à d'autres découvertes surprenantes. Dans la nuit du 27 juin 1931, un bruit de détonation et une lueur intense sont observés dans le ciel au-dessus du désert, en Tunisie, près du village de Tataouine. Une météorite vient de se désintégrer en entrant dans l'atmosphère et des centaines de fragments se dispersent sur le sol, sur une surface de moins d'un kilomètre carré. Le jour même de la chute, un grand nombre de ces cailloux extraterrestres sont recueillis et envoyés à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle. 63 ans plus tard, en 1994, une équipe de chercheurs français part dans le désert de Tataouine pour recueillir d'autres fragments de la même météorite et pour comparer ces fragments fraîchement recueillis aux fragments conservés à Paris depuis 1931. Leurs résultats sont publiés en 1998 dans la revue Science, 2 ans après la publication dans la même revue des résultats étonnants de l'analyse de la météorite AL84001. L'étude des fragments de la météorite Tataouine, prélevée en 1994, a révélé la présence de carbonate, avec de minuscules structures en forme de bâtonnets, qui ressemblent à des fossiles de bactéries, mais de taille 5 à 10 fois plus réduite que les plus petites bactéries connues sur Terre, le même type de structure que celles qui ont été décrites sur le météorite martien AL84001. Ces carbonates et ces structures en bâtonnets sont absents des fragments de la météorite Tataouine prélevés le jour même de sa chute sur Terre, le 27 juin 1931. Ils n'ont donc pas été apportés sur la Terre à partir de l'espace. Ils sont d'origine terrestre. Ceci démontre que les météorites peuvent acquérir des minéraux terrestres en un temps très court, concluent les auteurs de l'article. Mais qu'en était-il des structures en bâtonnets ? S'agissait-il de formations minérales spontanées ou pouvait-il s'agir de minuscules bactéries ? L'article ne concluait pas. Mais ce qu'il impliquait à l'évidence, c'est que s'il s'agissait de fossiles de bactéries, alors ce n'étaient pas des fossiles de bactéries extraterrestres, mais de bactéries de notre planète. Deux ans passeront. Et en 2000, la même équipe de chercheurs isole une minuscule bactérie vivante à partir des grains de sable collés sur un fragment de la météorite recueillie en 1994. Encore 3 ans, et la même bactérie est isolée, vivante, à distance de la météorite, dans les sables du désert de Tataouine. Elle appartient à une famille de bactéries terrestres jusque-là inconnues et sera nommée Ramlibacter tataouinensis. La vie est cette exubérante colonisation du moindre fragment, de la moindre fissure, dit Pascal Quignard. La bactérie terrestre du désert avait colonisé le vagabond du ciel. Et l'étude d'une météorite tombée du ciel révélait l'existence sur Terre d'une famille de bactéries inconnues à ce jour. Encore 8 ans. Et en septembre 2011, un article est publié dans la revue PLOS ONE par plusieurs équipes de chercheurs biologistes français. L'article décrit les particularités étonnantes du mode de vie de cette petite bactérie du désert. La bactérie forme de petites sphères, protégées par une paroi épaisse, qui lui permet de résister aux agressions des rayons ultraviolets, au dessèchement et aux variations importantes de la température, les jours brûlants et les nuits froides des déserts. Ces formes sphériques semblent être l'équivalent de kystes ou de spores. Mais contrairement aux spores des autres familles de bactéries, qui sont dormantes, comme des graines, qui se maintiennent dans un état de vie suspendu jusqu'à ce que l'environnement redevienne favorable, contrairement aux spores, les petites sphères de Ramlibacter tataouinensis sont en pleine activité. Elles se divisent, donnant naissance à des bactériophies. Mais leur armure de protection les empêche de se déplacer. Elles demeurent immobiles sur le sol. Ces formes sphériques peuvent se transformer spontanément en des formes en bâtonnets qui, elles, sont capables de se déplacer à distance, mais qui sont en revanche très sensibles aux rayons ultraviolets et au dessèchement. La nuit, à la périphérie, au pourtour de la colonie, des bactéries sphériques se transforment en bâtonnets. Les bâtonnets quittent la colonie et s'aventurent à distance. Et dès le jour revenu, les bâtonnets se retransforment en bactéries sphériques, résistantes et immobiles, qui se reproduisent sur le nouveau territoire. Et ainsi, la colonie peut faire naître chaque nuit de nouvelles colonies qui s'étendent à travers le désert par cercles concentriques, se propageant comme des ronds dans l'eau, se déplaçant la nuit à l'abri de la lumière et se reproduisant à la lumière du jour. Et c'est au cours de ces pérégrinations à travers le désert qu'elles ont un jour colonisé la météorite Tataouine tombée du ciel. Dans sa forme sphérique et dans sa forme en bâtonnet, la bactérie possède un système particulièrement complexe de perception de la lumière et de réponse à la lumière. Elle fabrique 6 récepteurs différents qui répondent à la lumière, 6 photorécepteurs. 2 des photorécepteurs répondent à la lumière rouge et infrarouge, et 4 photorécepteurs répondent à la lumière bleue, la lumière de l'aube, du crépuscule, du jour. Percevoir ces différentes ondes lumineuses et y répondre est l'un des mécanismes qui permet à Ramlibacter tatawinensis de se reproduire le jour en résistant aux rayons ultraviolets et à la chaleur et de se déplacer durant la nuit. Mais il y a plus. Il y a probablement aussi, chez la petite bactérie des déserts, une capacité à percevoir et à mesurer l'écoulement du temps.
Pas mal, je sais pas si c'est joli. Et les cheveux, je les tresse, je les lisse, mes cheveux. Je les dresse, je les plisse un petit peu. Ou je les laisse, je sais pas si c'est mieux. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Où est le phare? Sur ma peau, sur mon front, au hasard. Il en faut, mais pas trop, trop de phare. Non, pas trop, sinon ça fait bizarre. C'est du ricil que je dois mettre sur mes yeux, sur mes cils. Mais peut-être pas les deux, je suis débile. Oui, peut-être c'est affreux le ricil. Miroir, si tu l'oses. Chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Franchement, t'es pas marrant. Non, t'es jamais content. Tu me dis jamais que je suis bien. Franchement, t'es pas marrant. Depuis le temps que je t'attends, moi j'ai plus l'air de rien. Bon, les cheveux, c'est du noir, c'est du blond, c'est du bleu. Je veux savoir si c'est long, si c'est peu. Je veux savoir si c'est le bon nœud. Je suis belle en rimmel, ou je suis pâle, ou je suis folle, je suis laquelle. Tout est flou derrière mon maquillage. En dessous, je ne vois plus mon visage. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez. Allez.
Jean-Claude Amezen sur France Inter.
Mesurer l'écoulement du temps. Je vous avais dit dans une précédente émission que parmi toutes les horloges biologiques circadiennes qui battent les jours, et qui ont été identifiées dans le monde vivant, la plus simple a été découverte chez les cyanobactéries, des bactéries qui, comme les plantes, réalisent la photosynthèse. Une horloge autonome qui bat le temps au rythme de 24 heures, y compris lorsque les cyanobactéries sont plongées dans une obscurité permanente, et qui peut se remettre à l'heure, se synchroniser à la lumière. Mais contrairement aux horloges circadiennes qui battent les jours dans toutes les cellules des animaux et des plantes, et dans toutes nos cellules, cette horloge extrêmement simple repose sur les interactions entre seulement 3 molécules, 3 protéines, fabriquées à partir de seulement 3 gènes. Et ces 3 protéines, appelées KIA, KIB et KIC, peuvent continuer à interagir et à battre le temps au rythme de 24 heures, même lorsqu'on les sort de la cyanobactérie et qu'on les isole dans un tube à essai. KIC semble être la plus ancestrale des 3 et être fabriquée par de nombreuses bactéries en l'absence de KIA et de KIB. Et des travaux récents suggèrent que la protéine KIC à elle seule peut permettre la construction non pas d'une horloge biologique, mais de l'équivalent d'un sablier biologique. Un sablier qui s'écoule pendant 24 heures et qui doit ensuite être retourné, remis en route le jour suivant, par une réponse à la lumière ou à un autre événement périodique de l'environnement. À la différence d'une horloge, un sablier s'arrêtera de fonctionner au bout de 24 heures si la bactérie est plongée dans une obscurité permanente. Autrement dit, contrairement à une horloge, un sablier ne bat pas les jours, il indique l'écoulement des heures pendant une durée de 24 heures. La présence de KIC dans la bactérie Ramlibacter tatawinensis suggère qu'elle possède un tel sablier, qui lui permettrait d'anticiper, entre le milieu et la fin de la nuit, la période d'humidité de dépôt de la rosée qui précède l'aube, et qui lui permettrait avant même la fin de la nuit, avant même les premières lueurs de l'aube, de répondre à la venue prochaine du jour et de se protéger de la chaleur et de la lumière. Dans les sables des déserts, dans ces régions arides qui constituent près d'un tiers de la surface des sols sur la Terre, se développent des formes de vie étranges, ancestrales, que nous connaissons si mal et qui nous renvoient au lointain passé du vivant, à notre lointain passé. Et au-dessus des sables des déserts, se déploient les lumières du ciel qu'explorent les télescopes des observatoires géants, à travers les immenses étendues de l'espace, les immenses étendues de notre passé le plus lointain. Sur les hauts plateaux des déserts du nord du Chili, à 5000 mètres d'altitude, dans le désert d'Atacama.
Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra.
Notre planète humide, notre planète bleue vue du ciel, n'a à sa surface qu'une seule tache de couleur brune, un lieu dépourvu du moindre degré d'humidité. C'est l'immense désert d'Atacama, enveloppé de poussière d'étoiles. Les scientifiques du monde entier ont construit ici les plus grands télescopes de la Terre. La science s'est éprise du ciel du Chili. C'est un extrait d'un des films les plus beaux et les plus bouleversants que j'ai vus, un film de Patricio Guzman, Nostalgie de la lumière. Écoutons Gaspar Galaz, un jeune astronome chilien qui travaillait à l'observatoire de Cerro Tololo sur les hauts plateaux du désert d'Atacama.
Au final, c'est ça, digamos, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, de dónde venimos, una pregunta muy fuerte.
Il s'agit de découvrir l'origine de l'humanité, l'origine de notre planète, l'origine de notre système solaire, d'où nous venons. C'est une question essentielle. Visuellement stupéfiant, le film Nostalgie de la lumière réussit à saisir la désolation du désert et la beauté de la Voie lactée qui voyage au-dessus du ciel chilien, écrit Salam Hamid dans la revue Science. Le sentiment d'évasion donné par les vastes échelles de temps astronomique et la connaissance que nous avons d'être tous faits de poussière d'étoiles. Un essai poétique centré sur l'expérience humaine et la perspective plus vaste que permet d'apporter la science, dit-il. Nostalgie de la lumière n'est pas seulement le chef-d'œuvre de Patricio Guzman, écrit Jacques Mandelbaum dans le journal Le Monde, c'est l'un des plus beaux essais cinématographiques qu'on ait vu depuis longtemps, un sommet de poésie. Dans le désert d'Atacama, Il n'y a pas seulement des astronomes qui lèvent les yeux et interrogent le ciel sur nos origines. Il y a aussi, depuis des dizaines d'années, des archéologues qui baissent les yeux et interrogent les sols sur notre histoire. L'extrême sécheresse du désert a permis la préservation des traces laissées par d'anciennes civilisations indiennes, de splendides peintures et gravures précolombiennes sur les roches, et des corps momifiés avec leurs parures et leurs armes sur la terre sèche et craquelée et sur le sable. Nostalgie de la lumière est une méditation sur le temps et la mémoire, écrit Salman Hamid. Nostalgie. Écoutons l'écrivain Milan Kundera. Plus vaste est le temps que nous avons laissé derrière nous, et plus irrésistible est la voix qui nous invite au retour. La maison natale que chacun porte en lui, le sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l'enfance, le retour. Le retour en grec se dit nostos, algos signifie souffrance. Nostalgie est la souffrance du retour, la douleur causée par l'impossibilité du retour. Nostalgie. Anoranza disent les Espagnols, saudade disent les Portugais. Les Allemands disent Sehnsucht, le besoin de ce qui manque. Les Tchèques, à côté du mot nostalgie pris du grec, ont leur propre mot, stesk, et leur propre verbe. La phrase d'amour tchèque la plus émouvante est « Stiska se mi potobie », « J'ai la nostalgie de toi, je ne peux supporter la douleur de ton absence ». En espagnol, poursuit Kundera, « Anoranza » vient du verbe « anorar », qui vient du catalan « ignorar », dérivé du mot latin « ignorare », « ignorer ». La souffrance de l'ignorance. Tu es loin, et je ne sais pas ce que tu es devenu. Tu es loin. Nostalgie de la lumière parle de cette souffrance. Un film lent et poétique, écrit Alison Abbott dans la revue Nature. Un film lent et poétique qui contemple des questions existentielles, d'où nous venons, où nous allons, et comment nous arrivons à vivre avec les souffrances du présent. J'aimerais que les télescopes ne regardent pas seulement le ciel, mais aussi à travers la Terre, pour pouvoir les retrouver. Depuis 32 ans, à l'ombre des grands télescopes, des femmes marchent sur les plaques de terre craquelées et les sables du désert et creusent les sols à la recherche des restes de leurs bien-aimés disparus.
There's no 5 years, there's no 10 years, only this. Queen of queen of queen of queens, there's no knife, 'cause there's no tension, only this. Lucid dream, dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain is the first for her. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Maybe I should study my reflection. Best to know how I seem. I spend the day dreaming of connection, just to feel how you feel. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain is the first color. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty no appeal.
Tell me how you feel. Are you even real? Are you even real?
Épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
Et quand tu n'es pas là, dit Éluard, et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors, je rêve que je rêve. Je te cherche par-delà l'attente, par-delà moi-même, et je ne sais plus, tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. J'entends encore la voix, c'est là que tu aimeras toujours, toujours. Toujours. Explique si tu peux pourquoi c'est ce visage et non un autre qui s'arrête devant toi. J'entends encore la voix. Aime, aime. Et les étoiles se poseront sur ta tête et des yeux sans sommeil veilleront dans les tiens. J'entends maintenant la voix, tout ce qu'elle n'a pas dit. J'entends autour de moi la ronde du silence. Tu seras comme un fou à l'idée du malheur, comme un fossé dans le désert, comme un malade abandonné parce qu'il a trop espéré. Il t'arrivera peut-être d'être comme un mort, jusqu'au point insensible, jusqu'à l'absence souhaitée de tout secret. Ceux qui ont de la mémoire peuvent vivre dans le fragile temps présent. Ceux qui n'en ont pas ne vivent nulle part, dit Patricio Guzman.
Viva Chile! Viva el pueblo! Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Fin d'été, un 11 septembre, il y a 38 ans. Le 11 septembre 1973, l'armée renverse le régime démocratique de Salvador Allende et Augusto Pinochet installe la dictature militaire au Chili. La dictature durera 18 ans. Plus de 3 000 opposants politiques seront assassinés, 35 000 torturés. 1 million de citoyens du Chili partiront en exil, dont le cinéaste Patricio Guzman qui s'est installé à Paris, comme le cinéaste Raúl Ruiz qui vient cette année de disparaître. Parmi les 800 prisons secrètes de la dictature, il y a les camps construits dans le désert d'Atacama. Depuis la fin des années 1980, des archéologues enseignent aux femmes de Calama comment reconnaître à partir de la disposition des grains de sable sur le sol les endroits où les corps qu'elles recherchent pourraient être enterrés sous le sable. Ce qui a été perdu, dit l'écrivain Michael Ondaatje. Ce qui a été perdu. Le poème d'amour intérieur, les niveaux plus profonds du soi, des paysages de la vie quotidienne. Des dates auxquelles l'abandon de certains principes eut lieu. L'art de se peindre les yeux, les gestes des amants. Les limites de la trahison. 9 mouvements des doigts et des yeux pour signaler des émotions essentielles. Des chants qui s'élevaient de l'amour dans les airs. La cause principale de mort furent les exécutions extrajudiciaires et les meurtres pour l'exemple. Nos archéologues creusaient le sol vers les corps disparus. Enterré est un poème qui évoque les disparus des massacres de la guerre civile dans le pays natal de Michael Ondaatje, le Sri Lanka. Au Sri Lanka, comme au Chili, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, ce sont les archéologues qui aident à retrouver les disparus, qui creusent vers le passé, qui aident la mémoire à faire son deuil. C'est le mot de Tukaram, dit Pascal Quignard. J'ai souffert des maux effrayants, j'ignore encore ce que me réserve mon passé. Combien le temps est long avant que la mémoire remonte à la lumière, dans cette nuit qui enveloppe les proches des victimes dans le silence. La douleur du retour, la douleur du retour d'un monde à jamais disparu. Nostalgie de la lumière. En 2008, les astronomes confirment l'existence d'un trou noir au centre de notre galaxie, au centre de la Voie lactée qui passe chaque nuit au-dessus du désert d'Atacama. La société comprend mieux les astronomes dans leur quête du passé, dit Gaspard Galas qui explore le ciel loin au-dessus du désert. La société comprend mieux les astronomes dans leur quête du passé qu'elle ne comprend ces femmes à la recherche d'un passé qu'elles ne peuvent retrouver, à la recherche de ce qui reste de leur bien-aimé. Et pourtant, nous, les astronomes, notre quête ne trouble pas notre sommeil. Nous pouvons dormir en paix chaque nuit consacrée à observer le passé. Lautaro est un archéologue plus âgé qui a suivi pendant des dizaines d'années les traces des anciennes civilisations dans le désert d'Atacama. Maintenant, il aide les femmes à chercher leurs disparus. Il dit que la mémoire de notre histoire récente, tragique et douloureuse, est beaucoup plus cachée, beaucoup plus lente à émerger à la lumière que la mémoire de notre histoire ancienne. Dans Nostalgie de la lumière, écrit Alison Abbott dans la revue Nature, il y a aussi Luis, qui a passé des années dans l'un des camps de concentration dans le désert, où un autre prisonnier politique lui a enseigné l'astronomie. Aujourd'hui, regarder les étoiles l'aide à ne pas oublier cette période de sa vie. Il y a Miguel, un architecte qui a survécu à 5 de ces camps. Il les a dessinés de mémoire quand il est redevenu libre, pour que personne ne puisse jamais nier leur existence. Vers la fin de la dictature, les soldats de Pinochet ont creusé des fosses communes dans le désert et jeté des corps dans la mer, poursuit Alison Abbott. Le film accompagne deux des veuves, Victoria et Violetta, qui parlent de manière bouleversante de leur recherche sans fin. Et il y a Valentina, dont la mère et le père font partie des disparus. Valentina a été élevée enfant par ses grands-parents. Elle dit qu'ils lui ont donné la force et le désir d'aller de l'avant, d'écrire sa propre histoire, pas seulement sous le signe de la souffrance, mais sous le signe de la joie. Ils lui ont aussi appris à observer le ciel nocturne et elle est devenue astronome. « Comprendre l'univers infini, dit Valentina, m'a permis de trouver une forme de sérénité. »
Et penser que tout part d'un cycle qui n'a pas commencé ni va terminer en moi, ni en mes parents, ni en mes enfants, peut-être.
Je me dis que tout fait partie d'un cycle qui n'a pas commencé avec moi et ne se terminera pas avec moi, ni avec mes parents, ni avec mes enfants. Nous faisons tous partie d'un courant, d'une énergie, d'une matière qui renaît sans cesse sous d'autres formes. C'est le cas des étoiles, de la mort des étoiles dont naissent d'autres étoiles, d'autres planètes, une vie nouvelle. Quand je pense à ça, je me dis que ce qui est arrivé à mes parents et leur absence prend une autre dimension, un autre sens.
Et me libère un peu à moi aussi peine et
Et me libère un peu de cette grande souffrance parce que je me dis que rien ne se termine.
Que les choses se acabent et se acabent.
Tout continue, toujours. L'image tremblante de cette jeune orpheline écrimant d'albums dans le monde, de l'image tremblante de cette jeune orpheline avec son bébé dans ses bras, on tient la beauté ultime du film. Tirer d'une histoire inhumaine la force de chercher encore, et donc d'espérer encore. Il aura fallu à Patricio Guzman 40 ans de mémoire à vif et de souffrance intime pour aboutir à cette œuvre d'une sérénité cosmique, d'une lumineuse intelligence et d'une sensibilité à fendre les pierres. À un tel niveau, poursuit Mandelbaum, le film devient davantage qu'un film. Un chant stellaire pour les morts, une leçon de vie. J'ai soif du retour vers ce ciel si clair, dit le poète chinois Dai Wangshu. J'ai soif du retour vers ce ciel si clair. Là, je peux dormir tranquille. Là, je peux et vivre et disparaître. Comme rit et pleure en silence un enfant dans le sein de sa mère. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert et Caroline Le Bosset, avec à la technique Patrick Henry et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.